CFM Villefranche, le mag.
Bonjour, bienvenue, le mag, oui, édition de ce jeudi 15 juillet. On va parler d'énergie parce qu'ils en ont à revendre du côté de la société coopérative et d'intérêt collectif Enercoa. J'attends dans une deuxième partie d'édition Guy Pezet et Jean-François Hébrard. Avant toute chose, la revue de titres et tour d'horizon des titres dans l'actualité à l'occasion de l'apparition du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois, avec en studio le chef d'édition Éric Lachon. Bonjour Éric.
Bonjour David.
C'est notre dernière entrevue de la saison avant un grand retour au mois de septembre. J'oubliais au passage, petit jeu à l'antenne pendant une semaine, des invitations pour la 22e édition du festival Africa Jar, le festival des cultures africaines à Cajar, coup d'envoi la semaine prochaine, le 22 juillet, 05 65 45 01 00. C'est enfantin, c'est le numéro de téléphone du standard de CFM pour repartir avec une entrée pour deux personnes pour cette 22e édition. 05 65 45 01 00. Non, Eric, vous levez la main, vous êtes en studio, vous n'appellerez pas. Faudra attendre un petit peu, je vous vois bien. Allez, on commence avec l'info de la semaine.
L'info de la semaine, c'est ce projet immobilier qui va avoir le jour, en principe, aux environs de la rentrée. Il s'agit d'un projet qui est porté par un investisseur d'origine stéphanoise, qui est tombé amoureux de l'ancien immeuble de la Banque de France, aujourd'hui qui accueille aujourd'hui les bureaux du cabinet d'architecte Capi Julia. Mais le bâtiment en lui-même est très vaste. Et il y a la place pour faire un joli projet. En l'occurrence, ça sera la création d'une dizaine d'appartements de grand standing pourront aussi être complétés par des espaces professionnels. Voilà, nous avons rencontré le porteur du projet qui s'appelle Laurent Belin et qui nous a donc détaillé sa vision de ce que sera, ce que deviendra l'ancienne Banque de France. Alors, vous découvrirez tous les détails dans notre édition. C'est également, je dirais, un projet qui est de nature à dynamiser le tour de ville, hein, puisque, bon, 10 logements de ce niveau-là, ça va quand même attirer une clientèle assez intéressante pour les commerçants du secteur. Donc, on vous donne les éléments qui vous permettront éventuellement de vous renseigner si vous êtes intéressé par l'achat d'un bien dans cette résidence. Et voilà, donc tout est détaillé dans notre édition.
Il y a encore un coffre-fort, non?
Alors, il y a la salle des coffres. Alors, figurez-vous que la salle des coffres va devenir un espace commun, une salle de festivité. Ceci en toute discrétion, bien sûr, puisque plus blindé que ça, il n'y a pas. On risque pas de se faire déranger par la marée-chaussée pour tapage nocturne. Hein. Tout est bien calfeutré. Voilà. Et le projet s'appellera la Villa des Écrins. Justement, les écrins en référence au coffre qui contenait donc les richesses au sein de la Banque de France.
On poursuit, c'est la revue titre avec la chronique de la semaine.
Alors la chronique de la semaine, c'est une série que nous consacrons aux sites et légendes du Rouergue. C'est Pascal Cazotte, notre historien local et chroniqueur qui s'y colle. Pascal Cazotte nous invite cette semaine à découvrir la chapelle Notre-Dame de 13 pierres. Alors on reste à Villefranche, mais vous verrez que c'est quand même un endroit très mystérieux, très, très chargé de mythes et de légendes, mais voilà, il y a eu aussi des apparitions, par exemple, sur ce site-là, il y a eu des miracles, des choses sur lesquelles l'Église a enquêté, on l'oublie, mais peut-être que Villefranche a un potentiel en termes de cité miraculeuse. En tout cas, Pascal Cazotte a le mérite de nous ressusciter ce passé.
C'est la revue titre, l'essentiel de l'actualité, présentée par Éric Lachon, chef d'édition, journaliste au Villefranchois. Une bonne revue de titre ne saurait se dispenser d'un peu de calembour et surtout de polémique. De la semaine.
Et oui, la polémique. Alors là, je vous amène du côté du Ségala, du côté du Bas-Ségala, plus exactement, sur le territoire de la commune de la Bastide-l'Évêque, où il y a eu, un accident assez regrettable concernant un étang sur lequel il devait y avoir des travaux de réaménagement, de mise en valeur organisée par donc la municipalité. Et un coup de pelle malheureux et des pluies sur un terrain un petit peu imbibé ont fait que l'étang s'est déversé avec sa vase, sa boue et ses poissons sur la route, aux grandes dames des amoureux du paysage qui ont trouvé cette vision absolument horrible. Il y a eu une bronca sur les réseaux sociaux, des élus qui ont été interpellés dans la rue de manière tout à fait discourtoise. Donc bon, c'est cette polémique-là qu'on vous invite à découvrir dans notre édition.
Il faut bien s'occuper. On poursuit avec le départ de la semaine.
Le départ de la semaine, c'est celui de Monseigneur Fonlupt, évêque de Rodez et de Vabre, qui a pris congé de ses ouailles aveyronnaises, puisqu'il est nommé archevêque de la cité des papes à Avignon, donc une belle promotion dans la hiérarchie de l'Église. Monseigneur Fonlupt a été en Aveyron depuis déjà pas mal d'années. Il a marqué son passage d'une empreinte, on va dire, de modernité et de soucis de faire de pastoralisme en Aveyron, un exemple de tolérance. Donc on lui rend un petit hommage à l'heure de son départ.
L'ensemble des titres présentés sont développés dans la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois, avec d'autres dans la parution du jour. La suite du programme, un peu de musique, est comme annoncé en studio. Guy Peset, membre de la coopérative Enerco, accompagné de Jean-François Hébrard. On va parler de production d'énergie renouvelable et de réduction de notre consommation. Enercoa, c'est une fusée sur le territoire. En plus, on peut devenir souscripteur et ça rapporte plus qu'un livret. On peut qu'inviter tout le monde à acheter une part sociale. Merci Eric et belles vacances. C'est quoi le programme?
Ah ben, le programme,
ça va nous faire rêver.
C'est quelque chose qui va rester dans l'ombre jusqu'à mon retour au moins.
Vous ne renoncerez pas à vos congés une nouvelle fois cette année. Merci Eric. Passez de belles vacances et rendez-vous à la rentrée.
Au revoir.
FM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez nous rejoindre, deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité, avec en studio, comme annoncé, Guy Peuzet et Jean-François Hébrard. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Deux membres du conseil coopératif de la société coopérative d'intérêt collectif Enerco-A, énergie coopérative d'Ouest Aveyron. Deux membres à énergie positive et communicative même, puisque vous faites partie de la COCOM, comme vous l'appelez, la commission communication, et vous avez même de l'énergie à revendre. Enerco-A, c'est une fusée hein, sur le territoire. C'est ce que je vous disais avant de prendre les micros. Je crois même qu'il y a un projet dans les cartons de nous emmener sur Mars. Mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Vous avez d'autres priorités pour l'instant, notamment de nous inviter à participer à l'émergence d'un territoire à énergie positive entre production d'énergie renouvelable et réduction de notre consommation. Où en êtes-vous des missions et des objectifs fixés, que vous êtes fixés il y a à peine 2 ans hein, avec la fondation, de cette société coopérative. C'était le 15 novembre 2019, je crois me rappeler. C'est tout frais, c'est tout récent.
Je peux en parler, oui, je rappelle, j'y étais. Je suis Canal Historique, moi, donc je suis membre fondateur Canal Historique.
17 membres fondateurs. Hein.
Oui, donc, où on en est ? Des installations pour la première grappe, on va en donner des précisés, mais ça, c'est en marche. On pourrait dire, oui. Si c'était pas un jeu de mots, mais bon, et ça c'est bien entamé maintenant. Ça avance malgré la lourdeur parfois des dossiers administrativement par rapport aux mairies, hein, par rapport à tout ce qu'il faut prendre en compte. Et c'était un des objectifs, bien sûr, puisque c'est sur cette première grappe que l'appel de la communauté de communes, dont de l'OAC, avait été fait pour que des citoyens s'associent à ce projet d'installation donc de photovoltaïque. Sur des bâtiments publics, et qui devait concerner à peu près toutes les communes. Ensuite, évidemment, dans les premiers objectifs, c'était trouver des sociétaires, et bien sûr, là aussi, on va y revenir, puisque c'est quand même... La base, c'était aussi de récupérer tous les financements publics que l'on pouvait récupérer, et pour récupérer ces financements publics, il faut des adhésions, il faut de l'engagement de fonds privés, si on veut. C'était quand même les deux bases de notre travail, et sur l'aspect économie d'énergie, essayer de réfléchir, en plus de ce qui se faisait dans la communauté de communes, qui était tout à fait intéressant pour nous, puisqu'on faisait partie des communes souvent, par exemple Najac et même Saint-Vincent, on était assez intéressés par la réduction.
Oui.
De la consommation électrique la nuit,
l'éclairage nocturne,
ça a bien marché, hein, ça a bien marché. Après, c'est pas tout à fait partout, je crois encore, mais je ne suis pas au courant exactement sur Villefranche comment ça se passe, par exemple.
Mais c'est pas Enerco-A, l'extinction de l'éclairage.
Non, c'était dans cette réflexion du territoire à énergie positive que ça s'inscrivait. La spécificité d'Enerco-A, c'était cette création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est mis en route fulgurante, parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait derrière tout de suite par un groupe de citoyens et d'élus, d'élus engagés aussi. Et donc ensuite, beaucoup de travail qui s'est fait de manière plus technique. Jean-François connaît mieux là, peut-être sur le COTEC aussi, et sur, travailler avec Mécogite, essayer d'avancer techniquement sur les dossiers. Mais non, mais c'est quand même le gros du travail qui a été fait la première année. Maintenant, la réalisation, c'est qu'il y a deux centrales installées.
Ouais.
Le 22 juillet, elles seront installées complètement. Celle sur le bâtiment d'Interactis et celle sur le bâtiment de l'hôpital. Mais comment on l'appelle, ce bâtiment, d'ailleurs ?
C'est le magasin de l'hôpital.
Il
faut situer cette actualité brûlante. Et c'est vrai qu'après une année très compliquée au niveau du Covid, on arrive au bout. Au bout, et ce qui est intéressant pour les futurs souscripteurs et les gens qui vont venir nous retrouver, c'est que pour l'instant, Enerco-A, c'était une belle idée. Et là, l'idée, elle est matérialisée, en fait. Ça y est, c'est du concret. Donc là, je pense que les gens vont pouvoir voir que Enerco-A, on va au bout du projet, de ce petit projet. Ce petit, dans le sens, c'est première toiture, hein, c'est beaucoup de travail pour deux toitures. Et c'est vrai que le 22 juillet, ça y est, 2010 vient et on va être raccordé. Et Enercoa, avec ses deux toitures, vont produire de l'électricité sur notre territoire. Et voilà, pour moi, un projet qui arrive, c'est la meilleure des vitrines pour Enercoa. Et pour l'instant, nous sommes à 212 citoyens. Il faudrait arriver facilement à 500, si on peut.
Alors 500, il faut expliquer pourquoi. Pour chaque euro citoyen versé, la région verse autant, une part.
Oui, exactement, la région est partenaire. Et donc, en fait, voilà, pendant un délai, pendant deux ans, on a cette aide de la région. Donc, en fait, on a quelque part une course contre la montre. Donc, voilà, à nous de gagner. C'est, pour l'instant, voilà, on est aux alentours de 212 citoyens. On a fait la moitié. Mais c'est la raison pour laquelle on continue, on développe notre stratégie, entre guillemets, communication. Donc, c'est des réunions publiques. D'ailleurs, la prochaine, ce sera le fin juillet, 25 juillet à Najac, à 10h. On développe aussi notre présence sur les réseaux sociaux. Et puis, on va en reparler à la rentrée. On va faire une émission avec CFM, qui est aussi un partenaire.
Éventuellement. Voilà. Merci d'avoir choisi CFM plus que Fun Radio. C'est un défi pour vous. Pardon, on va parler un peu de vous, Jean-François Hébras. C'est un petit défi pour vous. Alors, d'être à la communication et à la COCOM, la commission communication, mais commission technique quand même. Moi, je vous avais croisé, vous m'aviez dit « Oh là 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 !» Oh là là, la commission technique, mais fais chahuter quand même. Hein.
Et c'est la raison pour laquelle la commission...
On apprend beaucoup de choses.
On apprend beaucoup de choses, mais c'est compliqué d'être sur deux commissions. Donc je me suis replié très modestement sur la commission communication, qui est peut-être plus dans mes cordes.
Mais on a Armel, Daniel Escande,
voilà, après, il y a quand même une équipe, une team technique qui est très performante. Et
ah oui.
Après c'est, l'idée derrière quoi, c'est que c'est une coopérative. Donc déjà, c'est vraiment intéressant, le partage, la mise en commun.
La gouvernance partagée, c'est jamais simple, mais l'intelligence collective, une fois éprouvée, il y a des résultats, en tout cas, en ce qui concerne Enercoa.
Oui,
c'est
des compétences qui sont variées.
Vous êtes...
Des compétences variées, donc aussi des gens capables de s'investir dans plusieurs aspects du travail de la société coopérative.
Et vous êtes en train de développer une compétence locale, Enercoa, pour le territoire. Vous êtes une référence aussi technique, c'est ce que propose...
Oui, c'est ce qu'on voudrait être. Oui.
C'est l'idée, tout à fait.
Oui, c'est l'idée.
C'est un appui technique pour répondre à des questions, pour vulgariser ce nouveau rapport à l'écologie et à l'environnement.
À intérêt collectif, c'est aussi qui est important, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'intérêt privé... On n'est pas Elon Musk, que vous avez évoqué tout à l'heure, non, pas encore. Hein. Ou alors, si on arrive à faire de l'Elon Musk public, citoyen public depuis l'Aveyron, ce sera quelque chose, effectivement. Alors là, je pense qu'on trahira beaucoup.
Hein. Non, nous, c'est mettre en valeur notre territoire, pas la Lune, l'Imars.
Par exemple.
En tout cas, le sens de fusée, ça va très vite, c'est fulgurant, c'est bouillonnant. Tous les mois, tous les deux mois, il se passe quelque chose à Enercoa. Là, récemment, c'est le logo, la nouvelle identité visuelle d'Enercoa, oui, qui a été pensée, réfléchie, ses concepts.
Validé. Hein,
et validé, voilà.
Mais à la fois le logo et à la fois évidemment une charte graphique différente de ce qu'on avait fait au début, qui partait peut-être un peu dans tous les sens. Hein. Mais bon, il faut bien se lancer. Et donc maintenant, il y aura une cohérence des choix graphiques. C'est complètement dans l'esprit du temps, ça, quand même. Hein. Mm-hmm. Et donc, on se félicite d'avoir travaillé avec une graphiste locale, hein, donc Elodie Bazar, donc qui a proposé, et après discussion, on a validé un logo que les gens vont voir apparaître bientôt un peu partout, j'espère.
De quelle manière on peut rejoindre Enercoa et puis aussi participer à cet élan qui donne envie? Il y a différentes portes d'entrée, devenir souscripteur, vous l'avez évoqué en premier lieu.
Voilà, la principale porte d'entrée, c'est la souscription, nous aider financièrement, et après on est vraiment demandeur de toute aide. On peut passer au local, on peut poser des questions, on peut venir dans les commissions, voir comment on travaille. Peut y avoir un petit moment de voir comment on fonctionne, et puis si les gens sont convaincus, sont intéressés, ils passent à l'acte, ils nous rejoignent. Mais c'est vrai que l'intérêt de la coopérative, c'est quelque chose c'est ouvert, au contraire. Il faut que les gens viennent et s'approprient ce projet. C'est un projet citoyen. Donc voilà, c'est pas pour un petit groupe, c'est pour le maximum de personnes.
Ah bah c'est pour le territoire, hein. L'objectif, oui. C'est 2030-2050, c'est d'être un territoire à énergie positive.
Exactement.
Donc,
oui. Oui, l'investissement des personnes aussi, c'est ça. Donc être
souscripteur,
mais aussi s'investir avec ses compétences. Ben, dès les réunions qui ont repris là, sur Najac, hein, soit avec le cadre de la mairie, soit au camping des Étoiles chez Pierrot Segond, enfin, il y a déjà des gens intéressés qui sont venus, et il y en a déjà, j'ai vu un ou moins qui s'investit beaucoup, des personnes qui ont découvert le projet, qui ont adhéré au projet. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres.
Hein. Oui.
On va aussi remultiplier les réunions à la maison, quoi, sur des réunions presque privées. Quoi.
On peut dire que malgré la situation sanitaire, pendant un an, alors là, les réunions publiques reprennent, mais vous avez continué à développer, à travailler hein, quand même.
Oui. Oui, on a fait fonctionner Zoom, on a fait fonctionner les écrans. Nous aussi, on a joué des réunions virtuelles. Donc nous, on a travaillé.
Et les sociétés ont continué à travailler quand même, d'installateurs, par exemple.
Oui,
donc
tout à fait.
Pas pour le second confinement, ils ont continué à travailler pratiquement normalement.
Non, on s'est jamais arrêté en fait.
Voilà. Administrativement aussi, on va vers la prochaine assemblée générale en septembre. Juste au début de la seconde moitié de septembre, sans doute. Et ça sera un moment important, l'Assemblée Générale, pour faire le point un peu sur la coopérative, mais donc avec les bilans, les divers bilans, et c'est assez formaté, une Assemblée Générale, mais aussi peut-être des questions diverses qu'il y aura, apparaître vraiment comme la force qu'on est déjà sur le territoire et qu'on veut encore développer.
700 000 euros collectés, je crois avoir vu ça quelque part, mais peut-être que je me trompe, en tout cas ça me semblait être une somme confortable, en même temps c'est un coût, hein, le déploiement de ces différentes grappes, vous l'avez dit,
oui,
bâtiment interactif.
C'est un coût qui est suffisant, il n'y a pas assez d'argent actuellement,
oui.
Bon, parce que les centrales vont produire, mais c'est pas, enfin, il n'y aura pas un revenu extraordinaire, et donc il faut trouver tout le temps d'autres formes de financement, et c'est en particulier, on a besoin vraiment des fonds privés, donc de trouver d'autres sociétaires, ça c'est sûr.
Ça c'est le nerf de la guerre.
Puisque c'était quand même, on a jusqu'à 100 000 euros hein, qui peuvent être débloqués par la région. Et donc si on est à la moitié, on est à peu près à 50 000, mais je ne suis pas sûr sur les chiffres. Hein. Et donc il y a encore à chercher, à agrandir le cercle des sociétaires, bien sûr. Hein, de façon, et même après, hein, faut continuer, de façon donc à pouvoir déjà recevoir tout cet argent public qui était une des sources de motivation aussi d'engagement dans ce projet pour les collectivités. Hein. Elles savaient qu'elles allaient être aidées. Sinon, les collectivités peut-être ne seraient pas lancées sur des projets d'énergie qui correspondaient au territoire TEPOS, là, énergie positive, de façon aussi directe aussi. Hein. Je crois qu'on peut...
Villefranche-de-Rouergue pour le déploiement des deux premières grappes et d'autres municipalités ont commencé à se positionner. Saint-Vincent, La Fouillade, Montaille, Najac aussi. Enfin, le plan de bataille là est étalé sur quelques années. Hein.
Mais ça va avancer assez vite, je crois. Pour
les premières grappes. Qu'il y a une bonne dynamique. On a réussi à créer une dynamique et il faut qu'on reste sur cette vague, hein, que ça ne devienne pas une vaguelette et que ça. Mais pour l'instant, les projets sont là, les idées sont là, mais il nous manque des souscripteurs, il nous manque des citoyens qui croient en ce projet, qui croient à c'est un côté identité d'un territoire et c'est une volonté d'avoir cette autonomie énergétique. Je crois que c'est un beau projet et c'est. Très franchement, c'est l'avenir, quoi. Voilà.
Oh, puis c'est dans l'air du temps, j'ai la sensation.
Oui, c'est un peu dans l'air du temps, oui.
Hein,
on l'espère.
Ouais.
Oui. Je dois dire aussi que ça, pour Enerqua, même les réunions dépassent maintenant et la sollicitation, parce qu'on est sollicité par des collectivités, on dépassait nettement le cadre de l'OAC. Il y a eu des réunions à Rieux-Pérou, il y avait déjà Gramont hein, qui était hors, mais donc maintenant il y a des sollicitations qui viennent de communes environnantes ou de collectivités environnantes, de communautés de communes qui sont intéressantes aussi.
Oui, on arrive à SME et en octobre on a une belle réunion avec la Maïf à Rodez, donc on a des contacts qui sont intéressants et on sort un petit peu notre territoire et c'est très bien.
Pour suivre votre actualité, bah, y a différents canaux de communication. La page Facebook qui est régulièrement alimentée. Il y a le site internet où on peut trouver son dossier pour devenir souscripteur aussi, part sociale à 100 €. Alors, on ne l'a pas dit parce que ce n'est pas l'argumentaire principal, mais cette part sociale pourra un jour, peut-être, rapporter plus que le livret A, hein, par exemple.
Ah, oui. Ce
n'est pas bien compliqué, mais il faut le dire. Ça peut
en
être...
principe, oui.
Hein c'est 100 € la part sociale. Faut remplir un petit dossier, puis le renvoyer. On trouve tout votre actualité, encore une fois, sur la page Facebook, le site internet, le 3 rue Presta aussi, où vous avez une salariée voilà. à Enercoa.
C'était le grand, un des grands moments de la formation d'Enercoa, c'est qu'à un moment donné, l'association a pris, enfin, la coopérative a pris une salariée, et c'est vrai que la salariée, le local, ça a été un moment important dans notre développement. Pour rebondir sur les parts, c'est une coopérative, donc c'est une voix, une part.
Guy Peset, Jean-François Hébrard, je vous souhaite bon vent. Alors les éoliennes, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être qu'un jour dans le projet. En tout cas, beaucoup de soleil pour alimenter le photovoltaïque. Oui. C'est donc le projet de production d'énergie renouvelable sur le territoire porté par notre société coopérative d'intérêt collectif. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.